Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le PSG prend rendez-vous à Budapest le 30 mai en quête d'une deuxième étoile qualifiée pour sa troisième finale de Ligue des Champions après avoir écarté le Bayern Munich hier soir. Un homme de 23 ans, principal suspect dans la mort d'une collégienne de 14 ans, tué dans l'Aisne à l'arme blanche. Nous serons sur place dans ce journal et vous entendrez le témoignage d'une passagère du MV Ondus, ce bateau de croisière en route pour les Canaries en raison d'une contamination à l'antivirus.
Munich a encore une fois souri au PSG.
Un an après leur sacre européen en Bavière, les Parisiens ont cette fois décroché leur ticket pour leur deuxième demi-finale consécutive de Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich. Les Parisiens font match nul hein, partout, ça fait 6-5 sur l'ensemble des deux matchs. Scène de liesse hier soir dans la capitale à l'issue de la rencontre, comme ici, place de la Concorde.
J'ai plus de klaxon, il marche plus, j'ai plus de voix, mais on est content, c'est carré. Je savais on allait gagner, je savais on allait se qualifier. Maintenant on va chercher la deuxième et c'est fini.
Paris et en feu, on va gagner avec des champions la famille. C'est incroyable ce qui se passe. Arsenal, non, c'est petit, c'est calme Arsenal, on va les éteindre.
Et vous l'aurez compris, les supporters du PSG sont impatients à l'idée d'affronter Arsenal le 30 mai prochain dans cette finale à Budapest. Jean-Louis Tour, vous êtes avec nous ce matin en direct de Munich. Il y a des raisons d'être optimiste au vu de la montée du PSG qui impressionne.
Oui, le PSG qui va se présenter avec le costume de favori pour cette finale à carte tenant du titre, d'abord. Ensuite, parce que cette équipe semble encore plus forte que la saison dernière, grâce à la confiance du vainqueur. Les matchs contre Chelsea, Liverpool et désormais le Bayern Munich peuvent le confirmer. Le Bayern qui était l'équipe la plus impressionnante de la saison. Les Parisiens pourront aussi se rappeler de la saison dernière, des deux victoires contre Arsenal en demi à l'aller comme au retour. Et autre argument en leur faveur, la fraîcheur. Ils seront peut-être champions ce week-end. Luis Enrique pourra ainsi faire reposer les titulaires, gérer le retour de blessure d'Achraf Hakimi, alors qu'Arsenal a encore 3 matchs à disputer d'ici au 30 mai, sans pouvoir se relâcher, car ils ont pour la première fois depuis 2004 la perspective d'être champion d'Angleterre. Alors malgré tout cela, le statut de favori ne fait pas tout dans une finale, il faudra qu'ils restent prudents, les Parisiens humbles, pour reprendre les mots de Désiré Doué, face à une équipe plus calculatrice, moins joueuse qu'il y a quelques mois, et qui ne laissera pas facilement les Parisiens garder la Ligue des Champions pour la deuxième année de suite.
Une finale que les supporters parisiens pourraient, contrairement à l'an dernier, suivre dans une fan zone. C'est en tout cas la volonté du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui souhaite sécuriser l'événement. Hier, au moins 6 personnes ont été interpellées en marge de débordement. 2 autres blessées à la main après l'utilisation d'artifices. On espère ce soir un deuxième club français en finale d'une Coupe d'Europe. Ce soir sur RMC, 21h, la Ligue Conférence. Strasbourg partira avec un but de retard face au Rayo Vallecano. Il est 8h03, vous écoutez RMC. On part dans l'Aisne maintenant, où une adolescente de 14 ans a été tuée hier matin, mortellement blessée de plusieurs coups portés à l'arme blanche. Ça s'est passé à Fère en Tardenois, commune de 2800 habitants à l'ouest de Reims. Sur place et en direct ce matin, Pierre Bazin du service police-justice RMC. Dans cette affaire, Pierre, un homme de 23 ans a été interpellé. Il vient de passer sa première nuit en garde à vue.
Oui, selon la procureure de la République de Soissons, il s'agit d'un homme sans emploi qui vit chez ses parents. Et même si presque 10 années le séparent de la jeune victime âgée de 14 ans, le suspect pourrait être un ex-petit ami de la collégienne. Les enquêteurs le soupçonnent donc d'être l'auteur des nombreux coups de couteau reçus par la victime alors qu'elle se rendait au collège en empruntant un petit chemin forestier, un raccourci bien connu des élèves qui passent chaque jour par cette petite zone boisée. Ce matin, devant l'établissement, c'est en présence de gendarmes et souvent accompagnés de leurs parents que les élèves se rendent en cours. Du personnel de l'éducation nationale a été déployé, tout comme une cellule d'urgence psychologique afin de recueillir la parole de ceux qui auraient besoin de se confier. Le rectorat assure que les cours vont reprendre normalement dans quelques minutes.
Pierre Bazin en direct de Fère en Tardenois pour RMC. La course contre la montre est lancée. Les autorités sanitaires traquent l'antivirus à la recherche de cas contacts. Parmi eux, il y a un Français. Le risque de contamination mondiale est faible, rassure le chef de l'OMS, alors que la maladie a tué 3 personnes à bord d'un bateau de croisière. Le MV Ondus, attendu samedi aux Canaries. Ses passagers seront débarqués lundi, rapatriés dans leurs pays respectifs. Parmi eux, il y a cette femme contactée par nos confrères de BFM TV. Elle nous raconte la vie à bord du bateau.
Il y en a certains, je vois, qui minimisent les choses. Il y a eu un grand barbecue sur le bateau, comme si de rien n'était. Alors, il y a la distanciation sociale, mais c'est depuis 3 jours hein, seulement. Et le port du masque aussi est obligatoire, encore qu'il y en a des tas qui ne le mettent pas. Après, on fait ce qu'on veut hein, sur le bateau. On nous dit d'être raisonnable. Voilà. Quand on a des communications maintenant, c'est par haut-parleur dans les chambres. Mais avant, nous rassemblait tous dans le salon, et cela jusqu'à dimanche. Toutes les mesures qui sont prises actuellement sont bonnes, mais elles ont été prises dimanche, c'est-à-dire trop tard.
En mer toujours, le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé en mer Rouge, déployé en vue d'une possible opération de sécurisation du détroit d'Ormuz. En tout cas, la volonté d'Emmanuel Macron, qui veut envoyer un signal, être prêt et capable de le faire dans le cadre d'une coalition internationale. Et la France, Thomas Blecker, de réclamer un traitement tout particulier de la question du détroit en raison de son intérêt commun.
Oui, et pour que cette mission voie le jour, l'Élysée pose ses conditions. Obtenir des États-Unis une levée du blocus qui pourrait permettre aux Iraniens de faire circuler leurs navires et exporter du pétrole, et en échange que les Iraniens s'engagent à entrer en négociation avec les États-Unis sur les dossiers les plus sensibles, le nucléaire, les missiles et la stabilité dans la région. Dans ces conditions, le chef de l'État propose de sécuriser le détroit avec la marine française et les pays alliés. C'est dans ce contexte que le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé en mer Rouge, positionné pour réduire les délais si une intervention se décidait. C'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron lors d'un entretien téléphonique hier avec le président iranien. Cela montre qu'on est opérationnel, souligne un conseiller du président. Encore faut-il attendre une réponse des deux pays impliqués dans le conflit. Les États-Unis et l'Iran nous écouteront parce qu'on a raison, parie l'Élysée.
Et il y a de l'optimisme ce matin du côté de Donald Trump qui juge possible un accord avec l'Iran, qui continue d'étudier la proposition américaine, des mots qui rassurent en tout cas les marchés. C'est le cas du pétrole dont le cours a chuté ce matin autour des 100 dollars, pas suffisant et encore trop tôt pour voir une diminution des prix de l'essence en France au plus haut depuis le début du conflit et sous l'effet de la guerre. Une tendance, la baisse des dons aux associations, recul de 3% au premier trimestre de l'année par rapport à l'an dernier selon la Fondation Apprenti d'Auteuil que vous révèle RMC ce matin. Et en 2025, les donateurs s'étaient déjà montrés moins généreux qu'auparavant. 47% des Français avaient donné contre 52% en 2024. Cela s'explique par un contexte économique difficile. Martin Bourdin, Amélie Courtet.
Pas vraiment fier de lui, du haut de ses 48 ans. Manuel l'avoue.
Je donne plus. Non, j'ai honte.
Des dons, il en a pourtant longtemps fait, mais trop dur désormais pour ce père de famille de soutenir les associations.
Trois enfants, vie compliquée. Et donc c'est plus compliqué de donner. Donc oui, j'ai donné, mais je donne plus.
Et même pour ceux qui continuent de donner régulièrement aux associations comme Marie-Claude.
Ça va être les Restos du Cœur, ça va être l'UNICEF.
Le budget don a bien maigri depuis quelques mois.
Effectivement, on a moins donné que les années précédentes. Les sommes étaient moins importantes. De moitié, on va dire à peu près. Sur une somme de 20 euros, on passe à 10 euros. L'idée, c'est quand même le principe de solidarité, donc de donner quand même, d'essayer de faire un geste. Mais malheureusement, on ne peut plus donner autant qu'avant.
Et ça, c'est un vrai risque que pour beaucoup d'associations, les plus petites notamment, explique Justine Murcier du groupe SOS qui fédère plusieurs associations.
Il y a des associations qui sont déjà concernées par des licenciements et par l'arrêt de certains programmes.
En fin d'année dernière, une association sur trois était menacée de disparition faute de financement, d'après la Fédération des acteurs de la solidarité.
Et puis un rendez-vous sur RMC après Paul Sexa, Sierra Armand, Duplantis, recordman du saut à la perche et l'invité cet après-midi du Super Moscato Show. Rendez-vous sur RMC à 15h.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 8h08 sur RMC. Écoutez, c'était hier soir dans les vestiaires du PSG. Et c'est sous ces cris-là que Jérôme Rotten rentre dans ce studio. Salut Jérôme.
Bonjour à tous.
Jérôme, Paris qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Ça y est, c'est fait. Merci d'être dans ce studio ce matin.
Oh non, merci que jamais. À vous de m'accueillir.
Bah ouais.
Ah bah oui.
Pas chez vous quand même.
Toujours un honneur.
Ouais. D'être là le soir, ben le matin, oui. Toute
partout,
la journée sur RMC.
Tout le temps. Sur RMC.
Tout le temps. Jérôme, plus fort que jamais là, franchement, non?
Ouais, c'est vraiment un exploit monumental, encore une fois. Moi, j'en ai parlé hier dans mon émission avant le match, mais c'est vrai que si le PSG se qualifiait pour une deuxième finale de suite, il faut pas banaliser ce genre de match et ce genre d'exploit. C'est vraiment incroyable ce qu'ils arrivent à faire avec une façon de jouer différente de l'année dernière en plus. Donc,
ils se sont renouvelés. Tu trouves qu'ils se sont renouvelés?
Oui, parce qu'ils sont un peu plus dans le dur cette année. Déjà lié à l'accumulation des matchs. Beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions, ils ont quasiment pas coupé. Ça s'est traduit par beaucoup de blessures en début de saison. Même encore, hein, dernièrement, il y en a eu encore avec Hakimi qui s'est blessé sur le match aller. Et ils ont fait abstraction de tout ça, ils se sont ressoudés. C'est la force mentale de cette équipe. De toute façon, pour gagner une telle compétition et pour aller loin dans cette compétition-là qui est la meilleure, la plus belle des compétitions. Il faut forcément avoir un mental et un collectif.
On le disait tout à l'heure aussi avec Daniel, il y avait une aisance, il y avait une sorte de rigueur, de maîtrise, qui fait qu'on n'a même pas eu l'impression qu'il y ait de la souffrance hier.
Oui, mais je, c'est pas lié qu'à hier, du moins on l'a pas découvert hier. Moi, je pars du principe que depuis que Luis Enrique est arrivé, c'est une autre phase du Paris Saint-Germain. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est là et il a montré très vite, contrairement à ce que certains ont pu nous dire sur Luis Enrique quand il est arrivé, que c'était un grand technicien. Non, mais c'est vrai.
Non, attends, je lui ai demandé. On va se dire les choses. Je lui ai dit à Daniel tout à l'heure. Je lui ai dit, finalement.
Il m'a
dit,
maintenant qu'il fait. Daniel qui est visé là-dedans.
Daniel, il m'a dit, maintenant qu'il fait ce que je dis.
Oui, c'est sûr que c'est le meilleur moyen de pas reconnaître ses torts. Mais moi, je parle pas forcément de Daniel.
C'est ça la liberté sur
eux. Exactement. Non, mais de toute façon, on a le droit de pas être d'accord. C'est le débat.
Et justement, alors, attends, maintenant, Jérôme. Je voudrais qu'on se projette. Comment on fait pour se projeter? Est-ce qu'on peut vraiment y croire? Est-ce qu'on se dit qu'ils sont favoris?
Favoris, moi, sur une finale, j'ai du mal. J'ai eu la chance de la jouer il y a quelques années. Alors, c'était dans un autre temps. Mais ce genre d'événement, il n'y a pas de favoris. Parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte sur une finale. On l'a vu l'année dernière. Personne n'aurait pu imaginer que le PSG allait ratatiner, écraser l'Inter, qui prenait pas de but, qui était très défensive. Ils en ont mis 5. Là, on a tendance à dire que Arsenal est pareil. C'est une équipe qui est très défensive, qui défend.
C'est un mur, quoi.
Ils ont pris que 6 buts sur l'ensemble de la compétition. Ils sont invaincus. Donc, ça veut dire que cette équipe, elle est ultra solide et le collectif est très fort, comme celui du PSG. Mais le PSG a montré aussi hier et sur d'autres matchs, même Liverpool, même Chelsea, qu'ils savaient défendre et bien défendre ensemble. Donc pour moi, ça va être un match ouvert. Après, l'expérience est pour le Paris Saint-Germain cette fois, parce que Arsenal, c'est que sa deuxième finale de l'histoire. Et la première, il l'avait perdue, et c'était il y a 20 ans. Donc, avantage donc, PSG.
Avantage PSG. Anne-Marie est avec nous. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour Apolline, bonjour RMC.
Comment ça va,
bonjour.
Anne-Marie? Je vous dis bonjour, mais je pourrais vous dire bonsoir. Vous êtes surveillante de nuit, donc vous avez bossé, mais la nuit, elle a été belle.
Ah oui, la nuit, elle était belle. Moi qui regarde le foot depuis 40 ans, franchement, je suis contente. Et puis enfin, Paris ont compris que une équipe, c'est une équipe et c'est pas des individualités. Alors, j'ai pleuré, voilà, comme une enfant.
Comme une enfant. Non mais ouais. C'est quand même assez extraordinaire. Franchement, non mais ça, Jérôme, t'as vu, on est tous, enfin là ce matin. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on avait Jean-Claude qui nous disait j'ai 76 ans, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle jeunesse. On le sentait quoi, c'est ça. Anne-Marie, c'est la vie quoi, c'est la vie qui revient quoi.
Ouais. Les émotions du sport.
Il n'y a que le sport qui peut nous faire voir ces émotions.
Je précise que Charles Magnin est en train de rentrer dans ce studio. Charles, c'est pas encore l'heure, mais tu peux venir t'asseoir. On sent que c'est un grand moment de partage. Anne-Marie, on l'accueille, on est d'accord.
Il a encore son. Bonjour Anne-Marie. Quel match.
Il a mis le maillot, j'espère.
Alors, il n'a pas mis le maillot parce qu'il arrive directement là. Il vient de se réveiller là. Il a son sac à dos.
Quel bonheur, Anne-Marie.
C'est extraordinaire.
On peut l'écouter à 5 heures du matin.
Voilà. Oui, bah maintenant faut traîner jusqu'à midi pour me retrouver. Mais je vais danser dans les bureaux, Anne-Marie.
Il va préparer Estelle midi, mais effectivement on sent que Charles est dans un état d'émotion. Salut Charles. Il est donc passé vous embrasser Anne-Marie et nous embrasser tous. Jérôme, un prono
sur la finale.
Ouais.
Oh, bah de toute façon, allez. Je peux pas dire autre chose que le Paris Saint-Germain deuxième étoile. Donc après qu'il gagne 3-0, 4-0, 5-0, c'est mieux pour. Pour gérer les.
On peut s'imaginer 5, on peut en mettre 5.
Je pense pas, mais on espère. De toute façon, je vais être sur place. Hein, je commenterai le match. Hein, je vous annonce ça déjà. Donc,
cool.
Donc l'année dernière, on y était. On a gagné 5-0. Bah pourquoi pas.
Ah bah donc ça veut dire exactement. c'est notre trèfle à 4 feuilles.
Deux équipes dans l'histoire qui l'ont fait de gagner deux fois de suite la Ligue des Champions, c'est le Milan AC et le Real Madrid.
Ouais, et c'est ça, donc ça sera nous la troisième.
Merci Jérôme Rotten, qui sera là évidemment ce soir dans Rotten sans flamme à 18h. Merci aussi à Anne-Marie. Il est 8h14, dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demange. Et puis notez qu'à 8h30, mon invité, ce sera la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffaut. Le porte-avions, le Charles de Gaulle, est en route vers le détroit d'Ormuz. Toutes les précisions donc à 8h30. Juste après, il y aura face à Canteloup, Nicolas Canteloup, en direct, comme tous les jours, à 8h50 sur RMC. 8h14, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h16 sur RMC. Arnaud Demange sera de retour lundi en pleine forme. En attendant, on vous en a gardé le meilleur. Arnaud, qui s'inquiète de la pénurie des pistaches, écoutez.
Et voilà. Allez, Arnaud. Et en plus, on en profite parce que sinon, enfin, c'est la misère, quoi. Ma pauvre voilà. Apolline, mon pauvre voilà. Mathieu, Géraldine, Virginie, les horreurs de la guerre. Ça continue puisqu'après les carburants, maintenant c'est les pistaches qui sont impactées par la guerre. La pénurie explose. Les prix montent. Manu Le Chypre vous en a parlé cette semaine ici et il a même laissé éclater sa colère sur BFM Business.
Bonjour. Aujourd'hui, l'impact économique du blocage du détroit d'Ormuz. Emmanuel Le Chypre, vous voulez... Enfin, Choubinou, qu'est-ce que tu fais en tenue de camouflage avec un masque et des palmes?
Non, c'est juste que si on commence à toucher à la bouffe, ça va chier. Alors moi, je pars dans le détroit et on va voir s'il y a toujours un blocus.
Oh, mon héros, non, ne fais pas ça, ne t'en va pas. On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je ne veux marier, père.
Non, Moumoune, c'est mon devoir. Je peux pas laisser... Je peux pas laisser à mon fils un monde sans pistache. S'attaquer à l'apéro, c'est s'attaquer à la France.
Effectivement, Macron doit parler.
Françaises, Français, nous sommes en guerre. Ils s'en prennent à nos valeurs, à notre mode de vie. Aujourd'hui, l'apéro est une cible. Et demain, si nous n'y prenons pas garde, les cacahuètes et les chipsters seront visés. Bon, on a du bol, le cochonou est pas trop produit dans la région, donc ça va. D'ailleurs, aujourd'hui, RMC offre aux auditeurs leur plein d'essence toutes les 30 minutes. Et ça, c'est... Ah, non, pardon, Grégory, notre directeur d'antenne, vient de m'écrire, l'opération est annulée. RMC vous offre dorénavant 120 000 pistaches. Vous faites tourner la roue des pistaches. Et la roue des pistaches vous donne un numéro pour ouvrir le coffre des pistaches, Apolline. Et dedans, il y a 12 pistaches numérotées, sauf qu'il y en a 11 de vide. C'est juste la coquille. Il faut trouver la bonne. Et là, vous gagnez votre poids, 120 000 pistaches.
Greg, il est prêt à faire le 120 000 pistaches.
Alors, je me suis informé sur les produits bloqués par la fermeture du Détroit. Donc, il y a le pétrole, le gaz, la pistache, le chocolat à la pistache de Dubaï. C'est suite à une seule bouchée, t'as les fesses de Kim Kardashian. De bloqué, il y a aussi le droit des femmes et la démocratie. Mais alors là, c'est bouché dans l'autre sens de navigation. Ils ne peuvent plus en importer. Bon, après, ce n'est pas des gros consommateurs non plus. C'est moins grave pour eux que nous, les pistaches.
Donald Trump a dévoilé les plans de l'Arc de Triomphe qu'il compte faire construire aux États-Unis.
Oui, un arc qui ressemble aux Français, mais en plus gros. La définition d'un Américain.
Nous,
quand on voyage dans un pays étranger, on ramène une épice ou une boisson locale. Lui, il ramène des bâtiments. J'ai aimé l'Arc de Triomphe, je le veux. Trump, il se construit en ce moment une salle de bal, un Arc de Triomphe. En fait, il est dans sa période, j'aime les grues et les tracteurs. Oui. Il a les mêmes plaisirs qu'un enfant de 4 ans. Et là, oh, le beau tractopelle. Là, il a une petite période, j'aime les fusils et les bateaux. Mais bon, ça va se calmer, hein. Apo, vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Dans 3 semaines, il va attaquer la phase dinosaure.
Oui. Ah oui.
Je vais ressusciter des tyrannosaures et les lâcher en Iran. Oh, oh, un dinosaure.
Pas du tout, je suis Jack Lang. Vous vous souvenez de moi? On s'est croisés dans le jacuzzi de Woody Allen chez Jeffrey. Avec Bill Gates et Patrick Bruel. Ça vous dit rien cette soirée?
C'était donc le meilleur d'Arnaud Demange. Il sera de retour lundi, vous en faites pas. Il sera avec nous et il sera en pleine forme. Il est 8h20 et c'est l'heure de faire gagner des vacances à Raphaël. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Comment ça va Raphaël?
Ouais, super.
Bonnes vacances.
Nickel. Bah ouais, ça devrait être pas mal, ouais.
C'est cool. Vous avez donc gagné le séjour bel endroit. Raphaël, vous faites quoi dans la vie? Vous vivez où?
Je suis vigneron. Dans l'Hérault.
Vigneron? Où ça?
Dans l'Hérault.
Dans l'Hérault. Et vous avez beaucoup bossé cette année?
Bah là, j'étais en train de faire mon traitement, quoi. On m'a appelé pour me dire que j'avais gagné.
Alors voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. C'est la bonne nouvelle du jour. Ça veut dire que vous nous écoutez sur le quoi? Sur le tracteur? Vous nous écoutez où?
C'est ça, c'est ça.
Ouais, ça c'est sympa. J'aime bien imaginer aussi où est-ce qu'on est avec vous. Eh ben, Raphaël, en tout cas, on va pas partir en vacances avec vous, parce qu'on va vous laisser en profiter tout seul, pas tout seul, en famille ou avec vos amis. Vous pouvez partir à la mer, à la montagne. Vous avez déjà une idée?
Non, je sais pas, j'attends de voir. C'est l'anniversaire de ma femme dimanche, donc c'est elle qui choisira la destination.
Ah, c'est génial. Elle écoute le matin ou pas? Elle sait déjà que vous avez gagné?
Je lui ai dit d'écouter. Donc voilà, du coup, je l'embrasse, Julie. Je l'embrasse.
On embrasse Julie, on lui dit bon anniversaire en avance. Et effectivement, on est très, très heureux de vous accompagner. Merci de votre fidélité et heureux de pouvoir la récompenser. Très belle journée à vous, Raphaël. Donc, Raphaël et Julie, il est 8h22. C'est donc un séjour Bellambra que vous avez gagné.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Il est 8h22, dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo. Le Charles de Gaulle a passé le canal de Suez, il est en route vers le détroit d'Ormuz. A tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Exploit historique en foot, le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier soir pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Match nul, un partout contre le Bayern Munich après le 5-4 du match aller. Rendez-vous le 30 mai prochain pour cette finale contre les Anglais d'Arsenal. Mais ce matin, on dresse aussi le bilan des heures des célébrations d'hier soir. 127 interpellations dans l'agglomération parisienne, dit le ministre de l'Intérieur à l'instant. 11 blessés, dont un grave, et 23 policiers touchés. Hors de question de lever la moindre sanction tant que le détroit d'Ormuz est bloqué. Déclaration du chef de la diplomatie française ce matin, tandis que Donald Trump, lui, a estimé que la signature d'un accord avec l'Iran est, je cite, très possible. Première nuit en garde à vue dans l'Aisne pour un jeune de 23 ans. Il est soupçonné d'avoir poignardé et tué une adolescente de 14 ans retrouvée sur le chemin de son collège. Enquête ouverte pour assassinat. Du monde sur la route aujourd'hui, début du week-end prolongé du 8 mai. C'est rouge partout dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Et puis la météo pour ce week-end prolongé. Journée plus calme aujourd'hui entre nuages et éclaircies avec quelques averses essentiellement vers les reliefs. Côté température, de 16 degrés à Nancy jusqu'à 22 à Ajaccio. Il fera 18 à Paris ou encore 20 à Perpignan.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, le face-à-face, le Charles de Gaulle, le porte-avions français, est en route vers le détroit d'Ormuz. Il a traversé le canal de Panama. Il est actuellement en train de sortir de la mer Rouge. C'est la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo, qui répond à toutes mes questions dans un instant pour tout comprendre à ce positionnement de la France. Et ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28, mais vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alice Ruffo.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Ce Charles de Gaulle, notre porte-avions, a donc traversé le canal de Suez. Il est en mer Rouge. Il va passer, semble-t-il, le passage de Bab el-Mandeb. C'est donc la direction d'Ormuz.
Pour le moment, il passe Suez et il est en mer Rouge. C'est un prépositionnement.
Ça veut dire quoi, un prépositionnement ?
Ça veut dire que, jusqu'à maintenant, juste dans les dernières semaines, il était en Méditerranée orientale, dans une mission de réassurance, en particulier de nos alliés du sud de l'Europe, et puis proche du Liban aussi, pour démontrer qu'on était là en solidarité avec nos alliés. Le fait de passer le canal de Suez, comme l'a décidé le président de la République, et d'aller en mer Rouge, c'est vraiment à l'appui de la coalition qu'il a proposée pour la liberté de circulation maritime. Donc c'est un signalement très fort de notre disponibilité à agir pour que la liberté de circulation dans les Trois d'Ormuz puisse reprendre.
Effectivement, on suit la route. Il a donc passé ce canal de Suez dans la plus grande discrétion. On ne l'a appris qu'une fois que c'était fait. Il y a, pour sortir de la mer Rouge, ce fameux passage de Bab el-Mandeb. Est-ce que vous redoutez ce passage ou est-ce que vous vous dites, nous, on passe comme on veut?
Non, on n'a pas à redouter. On a plutôt fait une démonstration de puissance quand même dans les dernières semaines. La question n'est pas de craindre ou de ne pas craindre. La question est de savoir comment on s'en sort de cette situation qui quand même pèse beaucoup sur tout le monde, sur l'économie mondiale. Donc on peut pas faire que l'économie mondiale finalement soit laissée à la seule volonté, et puis les prix à la pompe pour nos concitoyens, soit laissée à la seule décision des et qui change beaucoup, on le voit nous aussi dans les derniers jours, des belligérants. Donc on doit à la fois porter une initiative, faire une proposition étayée par des moyens. C'est le cas du Charles de Gaulle qui est un groupe, hein, c'est-à-dire qu'il y a des frégates avec lui et des moyens très importants avec lui, agréger autour de nous des volontés et puis aussi poser nos exigences aux belligérants.
Poser nos exigences, on va y revenir. Une coalition avec qui, on va y revenir aussi, mais puisque vous mentionnez l'ensemble des bateaux qui accompagnent le Charles de Gaulle, combien de bateaux, combien de marins, combien de soldats?
Alors, le Charles de Gaulle a tout son équipage, c'est très important, c'est plusieurs centaines. Il y a aussi des avions hein, sur le porte-avions par définition. Et puis il y a beaucoup de moyens de surveillance. J'ajoute qu'il est traditionnellement accompagné de frégates. Il y en avait plusieurs qui étaient déjà en mer Rouge. Et évidemment, l'idée c'est d'agréger autour de nous, parce que lorsqu'il était en Méditerranée orientale, il était accompagné d'un certain nombre de frégates aussi européennes d'autres pays. Toutes les discussions que nous avons, bon, après les éléments sont en cours, il y a des réunions de planification dans ces cas-là qui sont encore en cours dans la journée et qui doivent permettre d'agréger d'autres moyens, y compris d'autres pays européens. L'Allemagne a fait quelques annonces concernant le déminage qui sont bienvenues. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. Il y a d'autres pays qui ont des moyens, comme par exemple l'Espagne, l'Italie, et avec lesquels nous travaillons, les Pays-Bas, avec lesquels nous travaillons beaucoup à justement construire cette coalition, ces moyens qui permettront d'agir. Maintenant, pour agir, il faut que les exigences soient respectées et que les conditions soient réunies.
Les conditions, encore une fois, je voudrais y revenir, mais là, vous commencez à mentionner les uns et les autres. Cette coalition, est-ce que ça veut dire qu'au fond, notre Charles de Gaulle montre la voie, si je puis me permettre ainsi, et va être suivi de ces autres bateaux ou soldats des autres pays. Est-ce que c'est ça l'objectif?
Oui, il y a une cinquantaine de pays qui sont engagés dans cette coalition. Je rappelle que elle a été réunie.
Et c'est la matérialisation de cette coalition.
Absolument.
Parce qu'on l'évoque depuis le premier jour. C'était jusqu'à présent un projet.
C'est ça.
C'est une réalisation.
C'est une réalité, absolument. C'est-à-dire que c'est une démonstration de crédibilité de la coalition maritime qui a été construite. Je me rappelle que lorsqu'il y a eu la réunion à l'Élysée, enfin bon, c'est quand même normal hein, de poser le cadre politique et d'agréger autour de soi. Et en fait, là, il s'agit de mise en œuvre, d'exécution et de crédibilité de la démarche engagée. Maintenant, on n'est pas belligérant. On n'est pas belligérant, mais on subit. Et toute la démarche qui est engagée ces derniers jours, c'est aussi de dissocier la question du détroit d'Ormuz de ce qu'on voit des négociations positives ou pas entre les Iraniens et les Américains. Et donc cette question du détroit d'Ormuz, elle est d'intérêt commun parce qu'on voit les conséquences pour nous, et donc on a le devoir, vu la très grande gravité de la situation, de proposer une initiative crédible, qui soit à bonne distance des belligérants, parce qu'on participe pas à cette guerre, mais qui puisse permettre de manière crédible la libération du détroit.
Prendrons-nous la direction de cette coalition?
Nous avons le leadership, enfin en tout cas pris l'initiative en coordination avec les Britanniques.
En coordination, mais nous avons le leadership de cette coalition. Aujourd'hui, la France est aux avant-postes de cette coalition.
Oui, parce que la France a des moyens, parce que le président de la République a eu la même stratégie depuis le départ, c'est-à-dire de dire nous ne sommes pas belligérants, nous voulons isoler la question du détroit qui est quand même d'intérêt mondial des tensions et de la négociation, parce que c'est une priorité et que j'ajoute, pardon, c'est à la fois une exigence que nous posons aux belligérants mais aussi une proposition que nous leur faisons. Il y a besoin que de temps pour la négociation et cette négociation doit se faire dans un contexte où l'économie mondiale n'est pas paralysée, parce que ça pèse sur tout le monde, ça pèse sur l'Iran, ça pèse sur les États-Unis, ça pèse évidemment sur l'Europe, sur l'Asie, sur le monde entier.
Au moment où l'on se parle, ce détroit d'Ormuz, il est toujours bloqué. Concrètement, un navire a été attaqué hier. Il appartient à l'armateur CMA-CGM, qui est également propriétaire de BFM TV et d'RMC, sous pavillon panaméen, mais aussi sous escorte américaine. À quoi sert l'escorte?
Je sais pas. Honnêtement, je peux pas. Faut voir avec la compagnie. Je sais pas jusqu'à quel point il y avait une escorte matérialisée américaine. Ce que je sais, c'est que le président Trump avait annoncé une initiative d'escorte qui a finalement été abandonnée. Donc on voit bien quand même que la situation n'est pas claire, ce que ça montre cet épisode. Pour un bateau, c'est pas la France. Je crois que le président de la République l'a redit il y a quelques heures.
C'est important pour vous de mentionner que ce n'est pas la France qui a été visée.
Oui, c'est important parce que en fait,
c'est une propriété d'une entreprise française, voilà, mais ce n'est pas la France.
Ça n'en est pas moins grave, si je puis me permettre. C'est que on voit bien ce que ça démontre, c'est que la situation est extrêmement grave, extrêmement tendue, qu'il n'y a pas de solution évidente et qu'il faut bien.
Si vous prenez le temps, je voudrais quand même bien préciser les choses et je voudrais qu'on comprenne ce qu'il y a derrière cette phrase. Quand vous dites et quand vous redites ce matin ce qu'Emmanuel Macron a dit hier en Conseil des ministres et a voulu faire savoir par la voix de la porte-parole du gouvernement hier, la France n'est pas visée, c'est aussi pour dire nous, ce n'est pas une déclaration de guerre.
Non, c'est
ça exactement. Ça ne nous entraîne pas dans la guerre.
Exactement.
C'est ça que vous avez en tête.
Exactement. Et d'ailleurs, la question est posée depuis le début. On croit en ces termes. C'est pour ça qu'on répète qu'on est dans une position défensive, qu'on n'est pas belligérant. Je rappelle quand même, la gravité de la situation sur le plan militaire. On a aussi des soldats qui sont tombés dans la région. Donc, il faut vraiment dire la vérité. La vérité, c'est qu'on n'est pas belligérant. Et le fait de ne pas être belligérant, c'est quand même, ça nous permet d'agir. Ça nous
permet d'agir. On n'est pas belligérant. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de devenir lâche? C'est-à-dire que vous dites, il y a des soldats qui sont tombés, on s'en désole, et plus que s'en désoler, on souffre, et en même temps, il n'y a pas de conséquences.
Sujet par sujet, si je puis me permettre. On a, pour ce qui concerne le Liban, il y a une enquête qui a été demandée, qui est de manière extrêmement ferme. En Irak, le président a aussi eu des conversations sur ce sujet. Mais au-delà si vous voulez, on voit bien ce que donnent des méthodes qui peuvent être un peu brutales en diplomatie. Je ne crois pas, moi, que le fait d'avoir une posture diplomatique soit lâche ou faible. Je ne crois pas. Par contre, je pense que la diplomatie doit être armée de moyens crédibles pour porter crédiblement une position. Et je pense que c'est ça qu'on réussit à faire. C'est-à-dire qu'on a toujours dit « cette guerre n'est pas la nôtre ». Mais on en subit les conséquences. Donc si on regarde nos concitoyens et qu'on dit c'est pas la nôtre et puis on fait rien, je comprends qu'on puisse nous le reprocher. Mais là on fait pas rien puisque le porte-avions passe le détroit d'Ormuz et puisque nous avons une initiative.
Enfin le porte-avions ne passe pas le détroit.
Le canal de Suez. Pardon.
Mais il va.
Je suis désolée.
Et il va passer ce détroit de Bab el-Mandeb.
Ce que je veux dire par là, c'est que notre initiative d'abord elle est soutenue par de nombreux pays. Qui ne sont pas belligérants, qui subissent les conséquences. Donc on a réussi à agréger autour de nous. On a aussi des moyens militaires. Ça sert à quelque chose d'avoir investi dans la défense aussi.
Voilà, et c'est important, et c'est évidemment un message que vous faites passer aussi aux députés, aux élus, parce que la question du budget de l'armée est à nouveau, comme chaque année, en discussion et qu'il continue à augmenter. Alice Ruffaut, on le disait, ce navire qui a été attaqué hier, l'arrivée de notre porte-avions, est-ce qu'on aura vocation à escorter d'éventuels bateaux pour leur permettre de sortir aussi par le détroit d'Ormuz ou même d'y rentrer. Est-ce que notre vocation sera d'escorter? Est-ce qu'on aura ce rôle-là très concrètement?
Oui, on sait que pour sécuriser le trafic maritime, il faut redonner de la confiance aux armateurs et aussi aux compagnies d'assurance parce que il faut bien passer. Donc il y a des questions de mines et il y a de déminage, il y a plusieurs actions à mener hein, et il y a évidemment des questions de sécurisation des transits. Maintenant là au stade où on en est maintenant. Au fond ce qu'on dit à l'Iran, c'est vous avez besoin de passer. C'est aussi dans l'intérêt de l'Iran que le trafic puisse reprendre. Et vous devez pour ça, donner des gages crédibles aux Américains que vous êtes prêts à vous engager dans une négociation sérieuse. Et aux Américains, on dit séparer la question du détroit d'Ormuz du reste de la négociation. Et nous sommes prêts à prendre nos responsabilités pour permettre, sans être belligérants, de sécuriser
le
trafic.
Que vous répondent-ils ?
Je trouve, en tout cas, dans les contacts qu'on a eus ces derniers jours à tous les niveaux, et le président de la République a eu des échanges aussi avec le président iranien et avec le président Trump, notre voix est entendue.
Est-ce que cette coalition est soutenue aussi par les États-Unis ? Ou est-ce qu'elle doit être totalement indépendante ?
Je pense que cette coalition doit être indépendante parce que c'est la condition de son efficacité. Parce qu'au fond, le fait de ne pas être belligérant nous permet de porter un message aux belligérants qui soit à la fois une proposition crédible et en même temps des exigences crédibles.
Vous dites, nous ne sommes pas belligérants, et on le comprend bien, c'est une phrase importante pour vous, vous devez poser cette limite. Mais je voudrais qu'on imagine le scénario, c'est-à-dire qu'au fond, une fois que le porte-avions sera arrivé à proximité, si effectivement cette coalition entre en action et que l'on participe à la fluidité et à l'ouverture, en quelque sorte, de ce détroit d'Ormuz, il y aura, comme vous le dites, une manière d'escorter les navires. Si l'un de ces navires est attaqué, comme ça a été le cas donc hier, un missile iranien qui prendrait pour cible un navire, on rentrerait clairement en action.
Vous savez, le droit international est une bonne boussole. En droit international, les détroits doivent être libres de passage. Et en droit international, un navire attaqué, par définition, se défend. La coalition qu'on propose, c'est vraiment une coalition de pays capables et volontaires.
Ce que je veux dire, c'est que concrètement, si ce missile arrive, on répliquera ?
De toute façon, un moyen. Enfin là, on est vraiment dans un. Je veux pas faire des scénarios qui sont pas sur la table aujourd'hui. Mais de toute façon, évidemment que les moyens français se défendent et puis défendent aussi les moyens civils quand ils sont à proximité. C'est littéralement la convention sur le droit de la mer, hein, ce que je vous dis. Mais c'est une. Il y a une différence entre utiliser des moyens militaires pour permettre de porter de manière crédible une solution, parce que la
vous
crise est grave.
Vous espérez que notre présence, notre démonstration de force,
soit suffisante. Il faudra un accord des belligérants. Sur les conditions et sur les exigences que nous portons. Ce que nous démontrons, c'est que nous sommes capables d'agir et que nous sommes volontaires pour agir.
En fait, ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, Alice Ruffo, c'est que au fond, notre présence militaire sera prête. Il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton, si je puis me permettre.
C'est pas loin.
Voilà, on s'approche pour pouvoir, le cas échéant, si véritablement les deux parties se mettent d'accord, être entré en action.
Absolument, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir peser. Parce que moi, j'entends ce que vous disiez tout à l'heure. On dit, alors voilà, cette guerre, nous ne l'avons pas choisie, et puis il y a des conséquences pour tout le monde. Bon, ben, faut agir. Voilà. Et donc, agir, ça veut pas dire rentrer dans la guerre. Ça veut dire se mettre en mesure de. Et ça veut dire être clair sur la ligne. Je veux dire, depuis le début quand même, le président de la République, la France et ses partenaires ont été extrêmement clairs. La boussole, c'est le respect du droit international, c'est la reprise des négociations, c'est la fin des hostilités et c'est surtout là, aujourd'hui, tenir compte du fait que le détroit doit être rouvert et qu'il faut séparer ce sujet des autres.
Vous séparez ce sujet des autres, mais il y a une question, évidemment, qui est aussi celle de l'accès ou non de l'Iran à la bombe atomique. Selon l'agence Reuters, qui a eu accès à des documents du renseignement américain, l'Iran ne serait qu'à 12 mois de la bombe atomique. Est-ce qu'on peut véritablement se dire qu'une négociation dans ces conditions-là est possible ?
Alors, non seulement elle est possible, mais en plus elle est nécessaire.
Et on y participera à celle-là ?
Je crois que la France a suffisamment d'expertise sur le dossier nucléaire iranien pour savoir, en tout cas, qu'une négociation comme celle-là mérite du temps et du calme dans la durée. Voilà. D'où aussi l'initiative qu'on porte. Je veux dire, c'est pas simplement on sépare le détroit d'Hormuz du reste et on s'occupe pas du reste. C'est pas ça. C'est juste il faut donner, créer les conditions d'une négociation valable.
Les Émirats arabes unis ont été visés par plusieurs missiles. On a des accords de défense avec eux. Est-ce qu'on a participé à leur défense ?
Oui, nous avons participé à la défense du ciel des Émirats, y compris avec des moyens aériens. Ça fait partie des clauses que nous avons dans nos partenariats de sécurité
là,
avec les pays du Golfe, de manière permanente, pas sur un événement particulier. Mais je profite de cette occasion pour condamner évidemment les frappes complètement inacceptables qui ont eu lieu sur les infrastructures aux Émirats. On voit bien que cette guerre, elle a des conséquences pour nos partenaires. Et en fait, la France fait quand même œuvre de crédibilité, de prévisibilité. Voilà, quand on a le droit international, quand on le respecte.
Et quand ils nous demandent, quand les Émirats arabes unis nous demandent de les défendre, nous sommes au rendez-vous.
Nous sommes au rendez-vous, nous sommes crédibles avec des moyens militaires. Enfin, je veux dire, on a une stratégie diplomatique qui est très claire, qui est celle du respect international et de permettre la reprise de la liberté de circulation maritime et d'assurer la sécurité de nos ressortissants et de nos partenaires dans la région. Et on met nos moyens militaires à l'appui de cette stratégie.
Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, Alice Ruffo, que vous êtes la ministre déléguée aux armées. L'enquête sur la mort de nos deux soldats tombés dans le cadre de la FINUL dans le sud du Liban, est-ce qu'elle avance et est-ce que vous en avez un début de conclusion ?
Oui, les choses avancent. Le gouvernement libanais a pris vraiment des engagements en la matière. Nous, on a évidemment une exigence forte sur ce sujet. Et j'ajoute que les Nations Unies l'ont aussi. Parce que il peut pas y avoir d'impunité quand on vise un soldat de maintien de la paix. Pour l'instant, j'ai pas d'éléments nouveaux à vous apporter.
Le président avait parlé d'éventuels crimes de guerre.
De toute façon, de fait, cibler des soldats de maintien de la paix, vous ne pouvez pas ignorer que ce sont des soldats de maintien de la paix quand ils sont sur le terrain et qu'en plus, quand ils font une mission de ravitaillement en l'espèce d'un poste à un autre de la FINUL.
Il est confirmé que c'est le Hezbollah ?
Toute évidence une action du Hezbollah.
Demain, c'est le 8 mai, vous accueillerez des vétérans ukrainiens qui viennent d'arriver sur le sol français. Est-ce que ça veut dire que cet autre front est toujours un front sur lequel nous sommes nous-mêmes le plus actifs possible ? Il y a évidemment les aides européennes. Quelle est la position de la France ? Est-ce qu'on continue à aider ?
Oui, on continue à aider l'Ukraine. D'ailleurs, en fait, on voit les conséquences de la déconstruction du cadre international établi précisément après 1945. Bon, ce cadre, quand même, il nous a permis la paix. Donc, il ne faut pas lâcher sur les principes du droit international et le fait qu'il y ait des règles. Il ne faut pas lâcher parce qu'on voit bien que quand il n'y a plus de règles, et quand on sait pas les défendre et quand on met pas les moyens pour les défendre, et ben en fait ça pèse sur tout et sur la sécurité. Donc oui, on défend le droit international en Ukraine comme on le défend ailleurs dans le monde. Il y a pas de double standard en matière de respect du droit international.
Et une dernière question, la finule, pardon, mais officiellement c'est terminé à Noël prochain. Est-ce que nous prolongerons? Est-ce que nous, d'une manière ou d'une autre, même si le cadre de la finule lui-même n'aura plus de matérialité juridique, oui, est-ce que nous prolongerons notre présence au Liban sous une autre forme?
Nous avons dit oui aux autorités libanaises, notre disponibilité à continuer d'agir à l'appui des forces armées libanaises dans le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. Je sais que les autorités libanaises souhaitent un cadre international et c'est parfaitement respectable. Et nous y travaillons en fait dès maintenant parce que c'est bien ça qu'il faut préparer pour la suite.
Nous resterons et presque aussi nombreux, ou peut-être même aussi nombreux.
Les modalités doivent être définies, mais nous sommes tout à fait disponibles pour appuyer les autorités libanaises pour le désarmement du Hezbollah et dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban.
Merci beaucoup, Alice Ruffo, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Il est 8h46 sur RMC BFM TV.
Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup qui revient à sa façon sur l'actualité.
RMC Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Ah, tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. La ministre Alice Ruffo était mon invitée dans le face-à-face. Elle est restée avec nous. Rebonjour Alice Ruffo.
Rebonjour.
Emmanuel Macron voulait réagir à cette interview. Bonjour Monsieur le Président.
La bohème. La bohème.
Ah. Oui, bon, allez, Monsieur le Président, vous avez encore la tête en Arménie, je vois. Vous aviez chanté en effet la bohème là-bas.
Et oui, la bohème, cette chanson qui nous raconte que même sans argent, on peut être heureux. C'est une belle leçon, une belle philosophie pour les Français, non? La bohème, moi j'adore cette chanson. Mais bon, c'est vrai qu'avec la guerre au Moyen-Orient, avec Trump qui veut quitter l'OTAN et le prix des carburants, j'aurais peut-être été plus à l'aise sur mes emmerdes, hein. Parce que mes amis, j'en ai plus, et mes amours, j'en ai qu'une, elle me met des baffes. Donc, non, pardon, je m'égare.
Je crois que vous aviez une demande à faire à Madame Ruffo, Alice.
Oui,
Ruffo.
Parce que chacun le sait autour de cette table, et vos auditeurs doivent l'apprendre. Le papa d'Alice Ruffo, c'est le grand pédopsychiatre Marcel Ruffo.
Oui.
Marcel Ruffo.
Hein. Oui.
À ne pas confondre avec Marshall Truchot.
Ah, oui,
c'est pas le même niveau d'analyse, vous voyez.
Voilà.
Bref, votre papa est pédopsychiatre, donc j'en profite. Je rencontre, c'est vrai, autant vous le dire, quelques difficultés à canaliser un jeune adolescent à casquette de 79 ans.
Oui, c'est vrai.
Il passe son temps à provoquer, à menacer, à dire des gros mots et faire des doigts d'honneur à tout le monde en disant qu'il est le plus fort. En plus, il faut rien. Il passe ses journées à jouer au golf et avec des filles.
Et
ce qu'il a vu, c'est là, il fout le bordel dans la chambre des autres, des casquettes. C'est les jouets des autres. Donc le pire dans tout ça, c'est qu'il est persuadé d'être un génie.
Ah bah, d'accord.
Mais vu son niveau de vocabulaire et sa nullité en géographie, je crains qu'il souffre d'un retard mental.
Non mais vous seriez quand même pas en train de parler de Donald Trump comme ça.
Secret médical.
Ah oui. Merci monsieur.
Non mais attends, attendez, non, il n'y a pas merci monsieur le président. Non, attendez, parce que j'ai un deuxième cas à soumettre à monsieur Ruffo, et donc par le biais de sa fille Alice. J'ai un deuxième cas qui m'inquiète à soumettre, donc c'est Sébastien. Le jeune Sébastien, il a 39 ans.
Ah oui.
Il est dans sa bulle. Je ne sais pas si c'est une dépression. Il passe ses journées en pull mou. Il a toujours l'air abattu. Sa seule passion dans la vie, c'est le prix de l'essence. Elle a acheté des poireaux au marché, des baguettes et du muguet avec Laurent Wauquiez. Enfin, alors physiquement, comment vous le décrire? Il est à mi-chemin entre Fernand Reynaud, Stan Laurel et Mr Bean.
Oh non.
Je sens que la jeune Alice n'est pas très à l'aise de ce cas clinique.
Non, ce cas clinique, elle n'est pas. Non.
Non, mais ils se connaissent. Mon père et Sébastien Lecornu, mais pas Donald Trump.
Ah non, il ne veut pas, du coup. Pas allez, merci, monsieur le président.
Bonne intervention, d'Alice.
C'est très, très bonne intervention de la ministre. On retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité.
Oh oui, on est en bonne compagnie. Oh oui. Bonjour, Apolline. Oui. Bonjour à la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo. Alice qui veille sur la circulation des bateaux dans le détroit d'Ormuz. En mer d'Oman, en mer d'Arabie. Elle est faite pour ça, mais oui, Alice, au pays des mers, veille. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, c'est bon, c'est bon, une nuit de travail, ça.
Ça vaut les titres.
Allez, c'est un véritable succès depuis lundi. Tous les restos U, les restaurants universitaires, proposent des repas à seulement 1 euro.
Gérard Larcher annonce qu'il reprend ses études à la Sorbonne. Et puis, c'est dramatique. C'est, oui, alors, c'est dramatique. Plus de 1400 noyades ont été recensées en France en un an. La dernière à avoir bu la tasse, c'est une certaine Rachida Dati au municipal de Paris. Oh non, je viens lui remettre la tête sous l'eau. Bon, et puis une dépêche. Petit rectificatif. Gérard Larcher ne reprend pas ses études à Sorbonne, mais à Saint-Ouen. Il s'est inscrit en master poulet.
Allez, merci Stéphane Bern. Dominique de Villepin est avec nous. Tiens, bonjour. Vous avez été mis en cause par l'émission Complément d'enquête pour avoir reçu en cadeau des statues d'une valeur de 125 000 euros payées par le président du Burkina Faso à l'époque.
Ce n'est pas vrai.
Ah.
Je m'inscris en faux.
Ah.
Et Alice Ruffaut, c'est mieux que quiconque. C'est important de savoir séparer le vrai de Ruffaut.
On l'a jamais faite celle-là. Genre Alice au pays des merveilles, on me l'a quand même. En fait, je ne cache pas, mais celle-là jamais.
C'est du très haut niveau.
Ouais.
Comment aurais-je pu connaître en effet, Madame de Malherbe, la valeur de ces statuettes? Vous savez très bien qu'on ne demande jamais le prix d'un cadeau. Ah. Avez-vous demandé à votre mari le prix du brin de muguet qu'il vous a offert au 1er mai? Non. Allez-vous demander à vos enfants le prix des nouilles qui composent le collier qu'ils vous offriront pour la fête des mères? Non plus. Eh bien, moi, c'est pareil. Concernant ces modestes statuettes en marbre de Carrare et en ivoire d'éléphant rose du Gabon...
modeste, ouais.
Qui plus est, ont été certainement confectionnées par les petits-enfants du président burkinabé lors d'un mercredi après-midi passé au centre de loisirs, ce qui vous dit que c'était que de la pacotille.
Une pacotille. Bah alors, pourquoi avez-vous restitué ces deux statues au Quai d'Orsay si ce n'était pas de la corruption?
Mais précisément parce qu'elles n'avaient aucune valeur.
Ah,
surtout que je possède des statuettes bien plus précieuses. Mmh. Souvenez-vous, mon Oscar de meilleure diplomate de tous les temps, mon César de la meilleure intervention à la tribune de l'ONU, mon Molière de l'éloquence, sans oublier, bien sûr, le buste de Nicolas Sarkozy sur lequel je tire la carabine à plomb pour me détendre après d'harassantes journées passées à conseiller les plus grands dirigeants de la planète. Des dirigeants qu'on ne peut pas soupçonner, Madame de Malherbe, de corruption, puisque, croyez-moi, je ne leur fais aucun cadeau. En témoignent les factures de conseil que je leur adresse chaque mois.
Ouais, ça doit être ça. Merci, monsieur de Villepin. Alors, la situation reste confuse en Iran. Entre l'Iran et les États-Unis, pour tenter d'y voir plus clair, nous accueillons le consultant militaire de BFM, le général Félix Randy. En fait, le général Félix Randy est vraiment dans ce studio. Bonjour, général.
Bonjour.
Et alors, l'autre, mais il est où?
Mais il est où, mon général?
Mon général. Il sort de la table.
Hey.
Avec son casque. Oula. Oh non, ça devient dangereux, là.
Salut. Aïe, Ruffaut. Mamie déléguée aux armées, qui est mamie de tutelle et bientôt de curatelle, qui est pas venue pour votre interview.
Non,
elle est venue pour me consulter. Elle est venue consulter l'expert en guerre.
Alors justement, général Pays Randy, Donald Trump a déclaré qu'il avait envoyé sur zone plusieurs sous-marins nucléaires. Vous êtes général de l'armée de terre. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler.
Alors, les sous-marins. Les sous-marins, ça me connaît parce qu'avec cette guerre, ça fait plus de 60 jours que j'ai pas quitté les locaux de BFM. C'est vous dire si je suis sous l'eau. Donc, les sous-marins. Alors, grand un, les sous-marins. Quoi que c'est qu'un sous-marin.
Ah oui.
Les sous-marins, déjà, faut connaître le théâtre d'opération des sous-marins. C'est l'eau. Mais c'est un petit peu particulier. Parce qu'en fait, un sous-marin, c'est comme un bateau. Parce que je suis un grand pédagogue.
Oui.
Donc, c'est comme un bateau, mais qui serait très fort en apnée.
Oui, c'est ça.
Oui, je vulgarise pour le grand public.
Voilà.
Je suis pédagogue. Grand deux, les types de sous-marins.
D'accord.
Alors, à mon époque, bon, je veux pas raconter ma vie, mais enfin, un peu quand même. C'est important. À mon époque, il y avait des sous-marins diesel. Mais bon, l'eau rentrait par les pots d'échappement, ça et noyait le moteur et les marins avec. Donc, il n'était pas bien. Ensuite, il y a eu les sous-marins à voile. Mais bon, on a abandonné parce qu'on n'en parle pas, puis il n'y avait pas rarement assez de vent sous l'eau pour les faire avancer comme il faut. Et puis aujourd'hui, il y a les sous-marins. Mais aujourd'hui, il y a des sous-marins à propulsion nucléaire.
Tout à fait.
Quoi que c'est que la propulsion.
Ah, quoi que c'est.
Ben, vous avez un exemple de propulsion devant vous. Parce que moi, j'étais adjudant chef, et j'étais propulsé général. J'étais reçu premier à un concours de circonstances. Et puis ensuite, le général, j'étais propulsé à l'antenne. Et là, je peux vous dire, heureusement que j'avais un cax. D'ailleurs, est-ce que je peux enlever mon cax? Je sais pas ce qu'il fait, oui, un peu de chaud. Alors, je suis content d'être devant ma ministre de curatelle, parce que j'ai mis au point un sous-marin de demain. Je l'ai mis au point, je l'ai dessiné chez moi.
Oui.
C'est un sous-marin qui répond à deux critères, le développement durable et le budget. Et le budget. Mm. C'est un sous-marin en bois. Ah. Mais j'ai encore un problème, c'est qu'il remonte tout le temps à la surface. Il n'arrive pas à rester sous l'eau. Bon, voilà, la semaine prochaine, je vous expliquerai les drones, parce que c'est une technologie que je maîtrise. Je vous expliquerai comment tous les matins, j'arrive à me coiffer avec un drone.
Merci beaucoup Nicolas, merci au général Félix Rondy et à Alice Dupont de Dressée avec nous. Alors Marshall, prends le relais.
Les GG, les grandes gueules seront là dans 3 minutes, bien évidemment. Vous pourrez réagir au 32-16. Vous prendrez la parole avec les GG, avec les grandes gueules, pour évoquer notamment le boom sur les voitures électriques à cause de la hausse des prix du carburant. Est-ce que vous allez sauter le pas? Est-ce que vous allez acheter des voitures électriques? Ça sera l'un de nos sujets de discussion. À tout de suite avec les GG.